Chapitre 14. Mon vicariat à Saint-Charles, Rivière-Boyer. Le 24 septembre 1833, M. l'abbé Gazot, secrétaire du diocèse de Montréal, me remettait la lettre officielle qui me nommait vicaire de M. l'abbé Perras, archiprêtre, curé de Saint-Charles, Rivière-Boyer. Rien ne pouvait m'être plus agréable que cette nouvelle. Aussi me mis-je bientôt en route pour aller occuper le poste que mes supérieurs venaient de m'assigner. M. Perras pouvait alors avoir 65 ans. Sa taille tenait du géant. Et jamais général d'armée, jamais roi peut-être, ne porta sa tête avec plus de dignité que ce prêtre. Mais la douceur remarquable de ses beaux yeux bleus tempérait ce qui pouvait y avoir de trop imposant dans la noblesse de son maintien. Sa chevelure blonde commençait à blanchir. On aurait dit qu'elle était tressée de fils d'or et d'argent pour embellir et couronner sa vénérable tête. Lorsqu'il me tendit la main, avec une expression de bonté impossible à décrire, je me sentais tellement saisi par le respect que j'éprouvais pour lui et, en même temps, par la solennité de ma position que, sans aucune préméditation de ma part, je me jetai à genoux et je lui dis « Monsieur Perras, le bon Dieu veut que vous soyez mon père et mon guide. C'est vous qui allez diriger mes premiers pas dans la carrière du sacerdoce. Veuillez me bénir et prier pour que je sois un bon prêtre comme vous. » Cet acte si inattendu et si inusité toucha tellement le cœur du bon vieillard qu'il resta quelques moments sans pouvoir dire un mot. Se penchant ensuite vers moi, avec le plus gracieux sourire, il me souleva dans ses bras et me pressa sur son cœur en me disant avec la plus vive émotion « Oui, que le bon Dieu vous bénisse, mon cher abbé, et que le Seigneur soit béni lui-même pour vous avoir envoyé m'aider à porter dans ma vieillesse le poids du saint ministère. » Après une demi-heure de la plus intéressante conversation, il me montra sa grande bibliothèque qui était remplie des livres les mieux choisis parmi ceux que le prêtre a le droit de lire. Et il eut la bonté de la mettre à ma disposition. Les conversations de M. Perras étaient en général très intéressantes et très instructives. Jamais je ne l'ai entendu parler de choses frivoles et inconvenantes comme en ont l'habitude la généralité des prêtres de Rome. Il avait connu personnellement presque tous les prêtres et les évêques des 50 dernières années. Aussi, son excellente mémoire était-elle remplie d'anecdotes intéressantes et piquantes sur l'histoire de l'Église du Canada depuis la conquête. J'aurais à écrire plusieurs gros volumes si je voulais reproduire tout ce que j'ai appris touchant le clergé catholique romain de ce continent pendant que j'étais chez M. Perras. Je ne raconterai que deux ou trois des faits les plus frappants de cette longue histoire. 2 ans avant mon arrivée à Saint-Charles, M. Lajuste, mon prédécesseur, s'était enfui avec une de ses jolies pénitentes. Mais cette jeune personne, après quelques mois d'une vie de scandale avec ce prêtre, était revenue se jeter aux pieds de ses parents et leur avait demandé pardon. Pendant que cela se passait à Saint-Charles, un prêtre d'une paroisse voisine, Saint-Henri, commettait avec une de ses pénitentes un crime qui, sans avoir eu un aussi grand éclat, n'en était pas moins honteux et déplorable. Ces deux faits scandaleux qui arrivaient à mon oreille presque en même temps me désolèrent singulièrement. Durant plus d'une semaine, j'eus honte de me montrer en public et je regrettais presque d'être prêtre. J'en perdis l'appétit et le sommeil. Je me trouvais mal à l'aise, même avec M. Perras, et ses conversations n'avaient plus pour moi le charme accoutumé. « Êtes-vous malade, mon jeune ami ?» me dit-il un jour. « Non, monsieur, lui répondis-je, mais je suis triste. Pourrais-je savoir la cause de votre chagrin ?» me demanda-t-il avec bonté. « Vous sembliez si heureux chez moi avant cette semaine. Dites-moi franchement le sujet de votre peine. Je suis vieux, j'ai appris, sur la route de la vie, plus d'un remède pour l'esprit comme pour le corps. Ouvrez-moi votre cœur, ne me cachez rien, et je me fais fort de dissiper bientôt le sombre nuage qui couvre votre horizon. » Les deux déplorables scandales donnés, coup sur coup, par des prêtres, lui répondis-je, sont l'unique cause de ma tristesse. L'un de ces prêtres me semblait si vénérable et j'avais tant de confiance dans l'autre que la nouvelle de leur chute m'a frappé comme d'un coup de foudre. Bien que j'avais entendu au collège circuler certains bruits de cette nature touchant plus d'un prêtre, je ne m'étais cependant jamais douté qu'un si grand nombre d'entre eux menaient une vie si dépravée. Non, je n'aurais jamais cru, avant de le voir de mes propres yeux, que le nombre des mauvais prêtres fût si grand. Qui parmi nous pourrait espérer de marcher droit dans les sentiers de l'honneur et de la vertu lorsqu'on voit tomber à ses côtés, dans la boue et l'opprobre, des hommes qui semblaient si forts? Que va donc devenir notre Sainte Église, au Canada et dans le monde entier, si ceux de ces prêtres, qui nous paraissent les plus saints, ont si peu de respect pour eux-mêmes et perdent si aisément la crainte de Dieu? Mon jeune mais bien cher ami, me répondit M. Perras, notre Église est sainte et infaillible. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Mais cette assurance de sainteté et d'infaillibilité n'est pas fondée sur la vertu et les mérites d'aucun homme. La sainteté et la perversité personnelle des prêtres n'a rien à faire avec l'infaillibilité et la sainteté de l'Église. Cette assurance repose sur une base bien plus solide qui est la parole de Jésus-Christ même. Cette infaillibilité n'est pas promise non plus à aucun individu en particulier, qu'il soit pape ou non, comme l'affirment quelques théologiens ultramontains. Elle n'est promise qu'à l'Église universelle. L'infaillibilité et la sainteté, qui constituent un des traits distinctifs du caractère de notre Église, sont l'effet d'un miracle perpétuel. C'est parce que le Fils de Dieu la soutient de sa main toute puissante qu'elle ne peut périr ni être détruite par les scandales que, malheureusement, un grand nombre de prêtres donnent en spectacle au monde. Je dirais plus. Ces prévarications déplorables sont une des preuves les plus puissantes de l'infaillibilité de l'Église. Car si elle n'était pas constamment soutenue par Jésus-Christ même, il est impossible qu'elle ait pu subsister jusqu'à ce jour. Elle aurait depuis longtemps péri dans le déluge d'iniquité dont les mauvais prêtres couvrent la terre. Il en est de l'Église comme de l'arche de Noé, qui montait vers le ciel à mesure que les eaux tombaient plus abondamment sur le monde. Par un privilège admirable, ces torrents d'eau qui auraient dû engloutir l'arche ne faisaient que la rapprocher des cieux. Que ce qui vient de se passer n'affaiblisse donc pas votre respect pour l'Église et votre confiance dans les promesses de perpétuité et d'infaillibilité qu'elle tient de Jésus-Christ même. Bien plus, je dois vous dire qu'au lieu de s'affaiblir à la vue de scandales donnés par tant de prêtres, votre zèle pour le soutien et l'honneur de l'Église ne devrait que s'accroître. De même qu'un noble et vaillant soldat qui voit le porte-étendard tomber sur le champ de bataille, loin de se décourager et de s'enfuir, ne combat qu'avec plus d'intrépidité et d'héroïsme pour relever et sauver le drapeau. Ainsi, sur le terrible champ de bataille où nous combattons tous, vous verrez plus d'un de nos porte-étendards tomber et périr dans la mêlée. Mais, au lieu de vous abattre à cette vue, ne prenez conseil que de votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ et relevez vaillamment le drapeau qui est là, gisant dans la boue. Levez bravement et portez haut ce drapeau jusqu'à ce que Dieu vous donne la victoire. Me voici bien près du terme de ma carrière. J'ai été témoin de scandales de la part des prêtres qui m'environnaient en comparaison desquels ce qui vous afflige tant n'est que pure bagatelle. Mais, Dieu merci, ma foi en la perpétuité et l'infaillibilité de l'Église n'a fait que se raffermir. Afin de mieux vous préparer pour le combat et vous empêcher d'être surpris et trop peiné par les scandales dont vous devrez être encore le triste témoin, je crois qu'il est de mon devoir de vous communiquer une révélation que je tiens de feu Monseigneur Plessis. Je n'ai jamais encore osé parler de ce lamentable fait à personne, mais l'intérêt que je vous porte et la confiance que j'ai en votre discrétion et en votre sagesse m'enhardissent à vous en faire part. Ce que j'ai à vous dire est confidentiel et doit rester entre vous et moi. Surtout, il ne faudrait pas en parler devant nos laïcs, car cela leur ferait perdre entièrement la confiance qu'ils ont dans le clergé. Confiance sans laquelle on ne pourrait absolument rien faire avec eux. Je vous ai déjà dit que j'étais l'ami intime et confidentiel de Monseigneur Plessis. Notre intimité datait des jours de notre jeunesse, que nous avions en partie passé ensemble au même collège. Tous les étés, lorsqu'il avait terminé ses 3 mois de visite épiscopale, il ne manquait jamais de venir passer avec moi quelques jours de repos dans ce lieu solitaire. Il occupait les 2 chambres que vous avez, et il m'a souvent répété que les plus beaux jours de sa vie étaient ceux qu'il avait passés dans cette retraite. Un jour, il arriva de sa visite épiscopale, plus accablé que jamais, au point que lorsque je me trouvais seul avec lui dans cette chambre et que je l'eus regardé avec plus d'attention, je fus presque épouvanté par l'expression de souffrance morale que j'aperçus sur sa figure. Non seulement il avait complètement perdu sa gaieté et son amabilité ordinaire, mais il était sombre et taciturne à faire peur. Pour la première fois de ma vie, je me sentis mal à l'aise en sa présence. Mais comme il était tard, je supposais que le changement que je remarquais en lui n'était dû qu'à la fatigue du voyage et j'espérais que le repos de la nuit lui redonnerait les qualités sociales qui en faisaient le plus aimable des hommes. J'étais moi-même accablé de fatigue. J'avais fait plus de 30 milles ce jour-là pour aller le recevoir à Saint-Thomas. La chaleur avait été excessive, les chemins étaient affreux et la poussière nous avait aveuglés sur toute la route. J'avais aussi besoin de repos, et je ne fus pas plus tôt couché que je m'endormis profondément. Je ne m'éveillai que vers 1 heure du matin, sous le coup d'un bruit étrange, qui venait évidemment de la chambre de l'évêque. J'écoutais attentivement et je fus saisi d'une inquiétude inexprimable lorsque des sanglots et des soupirs déchirants vinrent frapper mon oreille. Je courus à la chambre de l'évêque et je frappai à la porte en disant « Monseigneur, que signifient ces soupirs et ces sanglots que j'entends? Veuillez m'ouvrir la porte !» Évidemment, le pauvre évêque ne s'était pas douté que ces soupirs avaient pu être entendus de si loin et il chercha à me les cacher. Pour me donner le change, il répondit « Des sanglots? Des soupirs? Que veux-tu dire, mon cher Péras? Va donc te reposer. Tu en as besoin. Ne te trouble pas davantage à mon sujet. Je suis bien. » Il refusa absolument de m'ouvrir la porte de sa chambre. Comme de raison, il me fut impossible de fermer l'œil le reste de la nuit. Après m'être retiré, il me fut facile de comprendre que l'évêque faisait des efforts surhumains pour étouffer ses soupirs. Mais, malgré tous ses efforts, ils arrivaient jusqu'à moi. Le lendemain matin, ses yeux étaient rougis par les larmes qu'il avait versées et sa figure était pâle et défaite. Après le déjeuner, je lui dis « Monseigneur, la nuit dernière a été une nuit de désolation pour votre grandeur. Vous ne pouvez pas me le cacher. Au nom de Dieu et au nom de l'amitié qui nous unit depuis tant d'années, je vous conjure de me dire la cause de votre chagrin. Le poids de cette douleur disparaîtra ou sera diminué au moment où vous m'accorderez le privilège de la partager avec vous. » L'évêque me répondit « Tu as raison de penser que je suis sous le poids d'une immense douleur, mais la cause en est d'une telle nature que je ne puis la dévoiler à personne, pas même à toi, mon meilleur ami. Ce n'est qu'au pied de Jésus et de sa Sainte Mère que je puis aller chercher des consolations. Si Dieu ne me secourt pas promptement, je sens que je ne puis vivre longtemps avec la peine qui m'accable. Mais j'emporterai dans la tombe le terrible secret qui me tue. En vain, j'essayai à plusieurs reprises de lui arracher ce secret dans l'espoir d'en diminuer le poids. Tout fut inutile. À la fin, je crus que le respect que je lui devais me commandait de le laisser tranquille et seul. Souvent, la solitude a servi de remède et a été comme un baume pour calmer les plus profondes douleurs. Une fois laissé à lui-même, je m'aperçus qu'il se retirait dans sa chambre à coucher plutôt que de coutume. Quant à moi, le sommeil était hors de question. Je ne pouvais fermer l'œil pendant que mon évêque se débattait dans les étreintes de cette terrible agonie. Sa désolation m'avait paru si grande et ses larmes si amères lorsqu'il m'avait dit bonne nuit que je craignis même de le trouver mort le lendemain étouffé par les sanglots. Je fis donc garde dans le salon et je me plaçai de manière à suivre tous ses mouvements, à ne perdre aucun de ses soupirs. Cette nuit-là a été la plus longue et la plus noire de ma vie. Bien que mon malheureux et vénérable ami fît de constants efforts pour étouffer ses gémissements, je les entendis pourtant pendant toute cette affreuse nuit. Mais, quelque grande que fût la douleur de ce vénérable prélat, la mienne ne l'était pas moins. Ce fut dans le paroxysme de cette douleur que je pris l'étrange résolution que je vais vous dire. Au moment où l'évêque sortait le lendemain matin de sa chambre pour me saluer, « Monseigneur, lui dis-je, je m'étais flatté jusqu'à ce jour que vous m'honoriez de votre amitié, mais je m'aperçois que je me suis trompé. Vous ne me considérez pas comme votre ami. Un véritable ami n'a pas de secret pour son ami. Car à quoi servirait l'amitié si elle ne nous était pas donnée par Dieu même pour nous aider mutuellement à porter notre fardeau? Tant qu'il m'a été possible de croire que vous m'honoriez de votre confiance et de votre amitié, je me suis trouvé fier et heureux de vous donner l'hospitalité. Mais votre présence dans ma maison aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire sans manquer au respect que je vous dois, n'excite plus en moi les mêmes sentiments. En outre, il est bien probable que la peine qui vous accable va vous tuer, et même bientôt, comme vous devez vous en douter, si vous refusez de la diminuer en la partageant avec un ami. Je vous confesse donc ingénument que je ne puis consentir à vous voir mourir subitement dans ma demeure. Je ne veux pas, non plus, m'exposer aux humiliations et aux tracasseries d'une enquête de la part du coroner et du jury sur le cadavre d'une personne aussi éminente que votre grandeur. Je n'ai pas besoin de vous le dire, Monseigneur. Votre mort subite chez moi serait suivie de conséquences trop pénibles et trop graves pour que je puisse me résoudre à m'y exposer. Veuillez donc, Monseigneur, ne pas vous offenser, si j'ose vous dire que le plus tôt que vous vous serez cherché ailleurs l'hospitalité que j'ai toujours été heureux de vous offrir, le mieux ce sera pour votre grandeur et pour moi. » Ces paroles frappèrent l'évêque comme un coup de foudre et elles semblèrent le réveiller comme d'un profond sommeil. Ses yeux rougis et baignés de larmes se fixèrent sur moi avec une expression de douleur qui me perça le cœur. Il laissa échapper un profond soupir et me dit « Tu as raison, Péras. Je n'aurais jamais dû avoir de secret pour un ami comme toi, avec qui je suis lié depuis plus d'un demi-siècle. Mais tu es le seul homme au monde à qui je puisse confier un si affreux mystère. Nul doute que ton cœur de prêtre ne soit aussi brisé que le mien par ce que je vais te révéler. Mais, avant de te faire le dépositaire de cet épouvantable secret, j'ai besoin de prier avec toi. » Nous nous jetâmes à genoux et récitâmes le chapelet pour demander le secours et la protection de la Sainte Vierge, puis nous répétâmes le psaume Miserere Mei pour nous humilier sous la main de Dieu. Alors l'évêque, s'asseyant sur ce sofa, me dit « Il n'y a qu'un homme au monde à qui je puisse révéler ce que tu vas entendre, car tu es le seul sur la discrétion duquel je puisse compter pour que mes paroles restent à jamais ensevelies ici entre Dieu et nous deux. Comme tu es également le seul homme sur la sagesse duquel je puisse me reposer pour obtenir les forces et les lumières qui me manquent en ce moment. Tu sais que je viens de finir la visite de mon immense diocèse de Québec. Ce travail m'a coûté plusieurs années de fatigue. Mais il m'était nécessaire d'endurer toutes ces choses afin d'avoir une juste idée de l'état de l'Église que Dieu m'a confiée. Je ne te parlerai pas du peuple canadien, car à quelques exceptions près, je l'ai trouvé plein de foi et de bonne volonté. Mais les curés, ah, grand Dieu, vais-je te le dire? Oh, mon cher Péras, j'en mourrais de joie si le ciel me faisait connaître que je me trompe. Mais hélas, ce que je vais te dire n'est que trop vrai. » Cachant alors sa figure dans ses deux mains pour me dérober les larmes qui inondaient ses joues, il s'écria avec une exclamation de douleur impossible à redire. « Les curés! À l'exception de toi et de trois autres, les curés sont tous des incrédules et des athées. Grand Dieu! Que va devenir l'Église entre les mains de tels misérables ?» À peine ces paroles étaient-elles tombées de ses lèvres qu'il cacha de nouveau son visage dans ses mains en donnant un libre cours à ses soupirs et à ses larmes. Plus d'une heure s'écoula avant que nous puissions échanger une seule parole. J'étais comme pétrifié, ou plutôt j'étais à moitié mort de honte et de douleur. D'abord, je regrettais d'avoir forcé l'évêque à me révéler un fait aussi déplorable et aussi humiliant. Mais bientôt, semblable à un homme qui vient de tomber au fond d'un abîme et qui ne prend conseil que de son désespoir pour en sortir, je sentis que c'était l'heure d'employer toutes les ressources de la foi, de la science et de la logique pour ne pas succomber au découragement qu'un pareil fait était de nature à produire en nous. Donc, après une heure de silence que je passais dans le jardin avec l'évêque à réfléchir profondément sur ce qui venait de m'être révélé, je lui dis « Monseigneur, assurément, rien n'est plus de nature à m'affliger que ce que vous m'avez appris. Mais, après tout, permettez-moi de vous dire qu'un homme de votre intelligence et de votre position ne doit pas se laisser abattre. Quelque grand que soient les maux qui vous désolent, l'Église a vu des maux plus grands sans en être ébranlée. Rappelez-vous l'histoire de l'Église depuis le 7e jusqu'au 15e siècle et vous verrez que cette épouse sans tache de Jésus-Christ a passé à travers des épreuves bien plus formidables que celles que vous m'avez révélées sans avoir rien perdu de sa force, de sa beauté et de sa vie. Sans doute, les saints de ce temps-là gémissaient aussi sur les malheurs et les scandales de leur époque. Mais ils ne s'en laissaient pas accabler comme vous le faites. Prenant alors l'évêque par la main, je le conduisis à ma bibliothèque et lui présentai l'histoire de l'Église par le cardinal Fleury. Je lui montrai les noms des papes dont les crimes privés et publics prouvent à l'évidence qu'ils étaient des impies et des athées. Je lui lus la vie de Borgia, Alexandre VI, et d'une douzaine d'autres papes qui seraient assurément aujourd'hui condamnés à être pendus par la main du bourreau de Québec s'ils vivaient dans cette ville et s'ils osaient y commettre seulement la moitié des horribles forfaits et des excès de débauche, de meurtre, d'assassinat, d'adultère et de brigandage dont ils se sont rendus coupables à Rome, à Avignon, à Naples, partout en un mot où ils ont régné. Je lui montrai, dans les pages de cette histoire, que la plupart des prêtres et des évêques de ces 7 siècles ne valaient pas mieux que les papes et qu'ils ne pouvaient être que des incrédules et des athées si on les juge comme on est en droit de le faire par leurs œuvres. Il me fut facile de lui prouver que les prêtres incrédules et athées du Canada étaient des anges de piété, de modestie, de pureté, d'honneur et de religion, comparés à un Borgia, par exemple, qui vécut publiquement avec sa propre fille comme si elle eût été son épouse légitime et qui en eut un enfant. L'évêque m'avoua que plusieurs des papes, Jean, Alexandre, Étienne, Grégoire, Léon, etc., étaient descendus bien plus bas que ces plus méchants prêtres dans l'abîme de toutes les iniquités. Nous passâmes 5 ou 6 heures à examiner cette question, non seulement dans l'histoire de l'Église par le cardinal Fleury, mais encore dans les annales de l'Église par le cardinal Baronius. Il fut obligé de reconnaître que ces curés, quoique incrédules et athées pour la plupart, avaient beaucoup plus de respect pour eux-mêmes et pour la religion qu'un grand nombre des papes, des évêques et des prêtres qui ont gouverné l'Église pendant plus de 7 siècles. La conséquence que je tirais de cette étude fut que, puisque notre Sainte Église n'avait pas même été ébranlée en Europe par ces horribles scandales, elle ne serait pas plus atteinte dans sa sainteté et son existence par la conduite des prêtres athées qui la servent au Canada. L'évêque avoua que ma conclusion était juste et logique. Il me remercia du bien que je lui avais fait en dissipant les sombres pensées du désespoir qui l'avait accablé au sujet de l'avenir de notre chère Église au Canada. Et pendant le reste de la journée, il me parut presque aussi aimable et aussi calme qu'avant la tempête qui avait passé sur son âme. À présent, mon jeune et bien cher ami, vous n'ignorez pas que le Canada n'a jamais donné à l'Église d'enfant plus grand par le cœur, l'intelligence et la piété que feu Mgr Plessis, évêque de Québec. Vous vous ferez donc un devoir et un bonheur d'accepter les conclusions que la raison, l'histoire et la logique offrirent à cet homme vénérable pour calmer et dissiper ses inquiétudes sur l'avenir de l'Église. Lorsque le démon viendra de nouveau jeter le trouble dans votre âme par les scandales dont vous serez témoin parmi les prêtres, rappelez-vous, par exemple, Étienne III, 768, qui, après avoir obtenu l'avantage sur Constantin, son compétiteur à la papauté, lui fit arracher la langue et les yeux. Rappelez-vous cet autre pape, Étienne VI, qui, pour se venger de son prédécesseur Formosa, fit exhumer et traîner son cadavre devant des juges et l'accusa d'une foule de crimes horribles qu'il fit prouver par une multitude de témoins. Il fit ensuite condamner le pape mort à avoir la tête tranchée et à être traîné dans la boue des rues de Rome. Ensuite, il le fit jeter dans le Tibre. Oui, lorsque par le moyen des confessions que vous entendez ou par la rumeur publique, vous apprendrez que des prêtres se sont rendus coupables de quelques grands crimes et que votre foi sera en danger d'en être ébranlée, rappelez-vous que plus de 12 papes ont été élevés à cette haute et sublime dignité par l'influence des prostituées que leur richesse rendait toute puissante et avec qui ces papes menaient publiquement une vie de débauche et de scandale. Pensez encore à Benoît XI, bâtard d'un pape et qui fut lui-même consacré pape à l'âge de 12 ans par l'influence de sa mère, prostituée publique de Rome. Mais il ne régna pas longtemps. Ses débauches étaient tellement horribles que le peuple et le clergé de Rome se soulevèrent contre lui et le déposèrent pour mettre à sa place un pape qui ne valait guère mieux. Eh bien, si notre Sainte Église a été capable de traverser de pareilles crises sans périr, ne devons-nous pas en conclure que c'est parce que Jésus-Christ est son pilote et qu'elle devint infaillible le jour où le Christ la fonda sur Saint-Pierre ? Tu es Petrus, et super hanc, Petram edificabo, ecclesiam meam. Ô mon Dieu, dois-je déclarer à ma honte quelles étaient mes pensées pendant ce long discours que m'adressa M. Perras ? Oui, je vais à ma confusion dire la vérité, afin que vous en soyez éternellement glorifiés. Pendant que ce prêtre déroulait devant mes yeux les effroyables crimes de tant de papes, pour raffermir ma foi chancelante, une voix mystérieuse, la voix de mon Sauveur, me disait au fond de l'âme. « Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Malgré moi, j'entendais la voix de mon intelligence, j'entendis les cris de ma conscience, qui me disaient avec une force impérieuse. Une Église dont la tête et les membres sont aussi horriblement corrompus ne peut pas être l'Église de Jésus-Christ. Mais j'avais fait serment de ne jamais écouter la voix de mon intelligence. J'avais promis, comme le promettent tous les prêtres, d'étouffer, sous peine de damnation éternelle, les cris de ma conscience toutes les fois qu'ils seraient en désaccord avec les enseignements de mon Église. J'étais trop honnête pour approuver de vive voix les conclusions de M. Perras, qui étaient cependant celles de mon Église infaillible. Mais j'étais aussi trop faible et trop lâche pour lui dire ma pensée et lui répéter les paroles du Christ qui retentissaient au fond de mon cœur. « Vous les connaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. » Je restais triste et muet. La raison et le simple bon sens me disaient que conclure que le Saint-Esprit gouvernait une Église aussi corrompue dans sa tête et dans ses membres, parce qu'elle existait depuis 18 siècles, était aussi absurde et illogique que de soutenir que les 3000 ans d'existence de l'Empire des Chinois prouvent infailliblement que ce peuple idolâtre est sous la conduite immédiate de l'Esprit-Saint. Je me retirai plus troublé que jamais. Je me jetai à genoux pour demander à Dieu de m'aider à soumettre ma raison rebelle à celle de mes supérieurs. J'étais désolé contre moi-même de ne voir que des sophismes dans les arguments d'un homme pour qui j'avais le plus grand respect. J'étais comme irrité contre ma propre raison de ce qu'elle refusait de s'incliner devant des raisonnements qui avaient convaincu une aussi haute intelligence que celle de l'évêque Plessis. Ce ne fut qu'après des luttes très longues et très pénibles que je parvins à étouffer une fois encore la voix de ma raison. Il se fit donc de nouveau comme un profond silence au fond de mon âme. C'était le silence qui se fait autour du malheureux prisonnier enchaîné au fond d'un noir cachot où personne ne peut aller lui parler. Mais que le Seigneur en soit éternellement béni. Sa voix a enfin retenti au fond de ce sombre cachot. Je l'ai entendue, cette voix divine, qui a fait la lumière autour de moi et brisé mes chaînes. Je ne suis plus le malheureux esclave d'un système d'imposture et de corruption tel que le monde n'en vit jamais avant la papauté. Je suis libre. Le Dieu du ciel, par son Fils Jésus-Christ, a rompu mes liens. Je vois que la hache est à la racine de l'arbre au mauvais fruit qui s'appelle Rome. Elle chancelle, ses murailles tremblent, bientôt elles tomberont en poussière et le ciel et la terre s'uniront pour chanter « Gloire à Dieu, Babylone est tombée !»